UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Mesdames et messieurs, bonjour, à nouveau sur Radio UMH, la radio de l'Université Miguel Hernández d'Elche sur la Costa Blanca espagnole. Une journée estivale, il fait chaud, la canicule, et nous on veut rêver, continuer à rêver. Et pour ce faire, aujourd'hui nous allons poursuivre nos émissions en français, déjà depuis plus d'une dizaine d'années quand même, c'est pas mal. Et une émission qui portera sur l'économie collaborative vers un nouveau modèle de société plus éthique et éco-responsable. Il sera donc question d'aborder ce sujet, une approche du concept d'économie collaborative, la situation actuelle de la planète qui nous mène sans doute à envisager d'autres formes de vie aux valeurs plus affirmées et durables. Et pour ce faire, j'ai autour de moi deux personnes qui me sont très chères et que j'ai la chance d'avoir avec moi. Donc c'est des invités, mais des invités que je nommerais collaborateurs, venus directement de Belgique. Alors, Bénédicte Demonty-Josquin, bonjour.
Bonjour Pierre, et merci pour l'invitation.
Thérapeute énergéticienne.
Oui.
Waouh, il faudrait peut-être en parler un petit peu quand même.
Ah ben disons que j'essaie d'aider les gens à se sentir mieux. Je rééquilibre un petit peu les corps, que ce soit l'esprit, l'âme, le cœur, le moral. Voilà, j'essaie de les aider au mieux que je peux.
Si nécessaire.
Ah oui.
En ce moment en particulier. Mmh. Et à ses côtés, à nos côtés, nous avons donc Paul Demonty, photographe.
Oui, effectivement, je suis photographe à la base, donc c'était déjà mon métier en Belgique. Je l'ai pris et j'ai continué à travailler en tant que photographe ici en Espagne. Depuis 5 ans qu'on est installé dans la région d'Alicante. Voilà, c'est quelque chose qui continue à me parler et qui est très intéressant à développer ici.
D'accord. Et donc, vous avez un point commun avec notre troisième invité. Un troisième invité qui, cette fois-ci, nous vient de France.
Il s'agit d'Alexandre Schneider, comme Romy Schneider, enseignant, chercheur, conférencier, excusez-moi, à l'Université de Reims, et entrepreneur. D'accord. Et je pense qu'on va aborder donc un sujet que vous connaissez également, donc c'est la raison pour laquelle vous êtes ici présents tous les deux. Et si vous êtes d'accord, sans plus tarder, on va appeler directement Alexandre Schneider, qui va prendre la parole et qui va nous éclairer sur ce sujet passionnant et je crois vraiment nécessaire, qu'il faut absolument connaître et de près.
Merci. Allô, Alexandre Schneider, bonjour.
Oui.
Bonjour, bonjour. Voilà, voilà. Donc, nous voici sur Radio UMH, sur la Costa Blanca espagnole, en live, avec Bénédicte Demonty-Josquin, Paul Demonty et moi-même, Pierre Vives, pour vous accueillir sur cette émission, pour cette émission spéciale abordant, ayant trait à l'économie collaborative. Alors, tout d'abord, je crois qu'il faudrait aborder un petit peu ce concept. De quoi est-il question exactement quand on parle d'économie collaborative ?
Pierre, c'est très simple. L'économie collaborative, c'est un mouvement qui est né il y a déjà plusieurs années pour notre cas. Ça fait 21 ans que nous travaillons sur cette thématique-là. Sans vouloir avancer, on a été plutôt précurseur dans ce domaine. C'est un domaine qui vraiment a pris écho il y a à peu près 4-5 ans. On en entend énormément parler. En fait, c'est très simple. C'est une coopération entre des personnes qui ont décidé de créer des économies alternatives à ce qui existe maintenant depuis des décennies. Et nous avons décidé simplement, nous, de pouvoir fédérer des consommateurs en direct avec des fabricants et des producteurs européens afin de créer, en fait, une diversification de solutions pour apporter des services et des produits à des gens à proximité de nous.
Oui, alors on parle de consommateurs européens, même s'il est vrai que cette initiative À la base, enfin, à la base, je ne sais pas si c'est en France exactement qu'elle voit le jour. C'est ça.
En fait, cette initiative est née il y a 21 ans maintenant dans un petit village dans Normandie, à une petite heure de Paris. C'est un village qui s'appelle Port-Mort. C'est un tout petit village. Et à l'époque, il y a une petite dizaine de personnes qui ont eu envie de faire les choses autrement, de faire les choses différemment. Et ils se sont regroupés et ils se sont dit, ben, pourquoi pas nous pourrions utiliser nous-mêmes créer notre propre centrale d'achat gérée par des consommateurs, pour des consommateurs, en direct avec des fabricants français. Il est vrai qu'il y a 21 ans, il n'y avait pas l'engouement autour de l'éco-responsabilité, autour de redistribution des richesses comme on peut en avoir à l'heure actuelle. Mais l'idée, bah, comme toute idée précurseur, on va dire, a pu forcément naître à un moment d'un esprit un peu plus, voilà, quelqu'un qui avait un peu plus de vision que ça. Et effectivement, à l'heure actuelle, on a un très très bel essor à travers toute l'Europe. Et l'idée de fédérer des consommateurs européens entre eux, bah, pour nous, ça a énormément énormément de sens au point de vue sociétal. Voilà.
Alors donc, on pourrait parler donc de changements sociétals nécessaires en vue du panorama mondial. On a eu droit à une pandémie très dure, très difficile, une guerre, pour ainsi dire mondiale, qui a des effets mondiaux, et peut-être une manière d'envisager de regrouper les activités économiques d'une manière différente, à travers peut-être le partage, hein, de biens, des savoirs, des services, des espaces, d'une manière différente, d'une manière plus sociale, si je puis dire, ou solidaire, n'est-ce pas?
Bah oui, tout à fait. Bon, je pense que là, il y a vraiment un consensus européen, voire mondial, sur les effets de la pandémie, qui aura déjà mis au point de vue bah, simplement déjà des bourses de chaque personne et consommateur européen ont eu un impact déjà très très important. Énormément de pertes d'emplois, de pertes de revenus, et donc de pouvoir d'achat, pour être très simple, hein, pas très simple. Là-dessus, on n'était même pas encore sorti de la pandémie. La crise en Ukraine a eu des retombées, on le voit à l'heure actuelle, hein. Alors, je sais pas, j'ai eu une étude dernièrement là, qui expliquait que pour un budget français, pour une famille en moyenne, il allait manquer à peu près 350 euros par mois. 350 euros par mois à l'heure actuelle, pour simplement revenir à ce qu'il était avant le Covid, c'est-à-dire juste pour compenser les hausses de l'énergie, les hausses de l'alimentation. Et c'est vrai qu'en ce moment, on est en train, je pense qu'on est en train en tant que consommateur, que simplement personne en Europe, à se demander mais comment on va faire. Et là, effectivement, on a deux alternatives qui peuvent se poser à nous. La première, c'est ce que c'est un jugement tout à fait personnel, hein, mais c'est ce que je pense profondément. La première solution, ça va être de demander un effort encore plus important aux gens, c'est-à-dire clairement ben, leur demander de resserrer un cran sur leur ceinture et de se priver et de trouver des choses différentes. Et il y a peut-être aussi d'autres alternatives qui peuvent émerger. Vous savez, on dit toujours que dans chaque crise, il y a des opportunités qui se créent. Et voilà, nous, on est en train d'essayer de proposer une alternative à ça, une alternative pour des consommateurs, mais aussi une alternative pour des gens qui ont envie d'entreprendre et peut-être de se créer une source de revenus en plus de leur revenu premier, voire même d'avoir un revenu initial et principal.
Oui, avant de céder la parole à mes collaborateurs de choix, aujourd'hui, moi, ce que j'avais retenu également, puisqu'on s'est déjà mis en contact au préalable ces jours-ci, c'est le fait également de produire en Europe au lieu de produire ailleurs, même d'augmenter le prix de revient des producteurs en éliminant donc toutes les barrières qui font augmenter parfois d'un pourcentage vraiment très très élevé le prix final au consommateur. Donc, il s'agirait d'augmenter, si j'ai bien compris, la qualité du produit en réduisant le prix de revient final au consommateur.
C'est exactement ça. En fait, l'idée, elle est très très simple. Tellement simple qu'on peut se demander pourquoi et dans quel intérêt d'autres n'y ont pas pensé. L'idée, c'est vraiment d'une évidence. En fait, nous avons décidé d'être en circuit court avec des fabricants que nous avons nous-mêmes été démarchés. ces fabricants, on leur a demandé quelque chose de très simple. On leur a dit, voilà, on va vous demander de respecter un cahier des charges qui répond à un besoin de consommateurs que nous sommes. C'est-à-dire, nous cherchons des produits qui sont vers énormément de naturalité, bio, éco-responsable, voire avec des certifications comme EcoCert. On leur demande aussi de pouvoir produire en Europe, principalement en France, en Belgique, en Espagne et en Italie. Et on va leur expliquer qu'on va même pouvoir les payer plus. Et en fait, on va leur autoriser en fait à produire de la belle qualité. Je suis convaincu qu'on a énormément de savoir-faire en Europe qui, de par l'effet des actionnaires de grands groupes de la grande distribution, eux qui vont chercher en fait à augmenter leurs profits et augmenter les gains des actionnaires, vont en fait insidieusement, j'allais dire, obliger les fabricants à qui veulent aussi gagner de l'argent, eux aussi baisser la qualité de leurs produits. Nous, à l'inverse, on a proposé par cette centrale d'achat qui s'appelle Akeo, on leur a proposé simplement d'augmenter la qualité de leurs produits. Et on leur autorisait à produire des produits qui vont répondre à un usage collectif, un usage responsable et éco-responsable à des consommateurs. Et comment on fait pour pouvoir faire ça? C'est très simple. On a décidé d'enlever tout ce qui nous coûtait cher. Qu'est-ce qui coûte cher à un consommateur au final? C'est simple. Hein. Quand vous rentrez dans un magasin, il y a une jolie enseigne avec des néons. Vous êtes rentré, donc il faut forcément payer l'amortissement de cette immense locale. Il faut payer forcément les charges propres du magasin, l'électricité, le chauffage, la climatisation, les ce qu'on appelle les charges fixes d'un magasin. Il y a forcément aussi tous les stocks, parce que quand vous rentrez dans un magasin, il y a des linéaires entiers et donc des milliers, voire des millions d'euros de stocks à l'échelle européenne sur ces groupes-là qui sont bloqués. Donc forcément, c'est le consommateur au final qui paye. Il y a également le fait que si vous êtes rentré dans ce magasin, c'est que vous y avez été incité. Donc il n'y a plus de la publicité qui a été mise en place. Et effectivement, il faut payer également toute une chaîne de personnes que nous ne voyons jamais, qui sont les intermédiaires, les importateurs et, j'allais dire, évidemment, les actionnaires. Je suis très très mal placé parce que je ne suis pas dans les rouages entiers du système. Donc je ne sais pas qui gagne le plus d'argent entre la caissière qui est dans votre magasin ou l'actionnaire de ce groupe, mais j'ai des forts doutes sur le fait que l'actionnaire gagne beaucoup plus que l'employé du magasin.
Excusez-moi, ça fait réfléchir quand même. Ça fait réfléchir.
Ah oui.
Et une dernière chose, excusez-moi, le temps passe très vite. Nous en sommes déjà quasiment à l'équateur de notre émission. C'est seulement 30 minutes. Je suis vraiment désolé. Parce que le temps passe trop trop vite. Alors, simplement, je voulais indiquer une chose qui est très importante, c'est qu'on vient de créer un BTS pour aborder donc l'économie collaborative. En France, un BTS, c'est comme en Espagne, los ciclos formativos superiores. Donc ça veut dire l'importance que donc ça révèle aujourd'hui pour le gouvernement français. Et en Belgique aussi, c'est fondamental. Afin de suivre les recommandations de la Commission européenne, la Belgique... depuis déjà janvier 2017, dispose d'un cadre juridique régulant donc cette économie collaborative et les plateformes d'économie collaborative doivent être agréées par le ministère des Finances. Donc c'est quelque chose que l'on a déjà pris au sérieux, qui est réglementé et qui va sans doute, je l'espère, s'imposer comme une solution peut-être à une possible crise très importante que l'on pourrait vivre si on n'a pas les moyens de lui faire face. C'est un petit peu ce que je souhaitais signaler et je dois simplement vous indiquer que je vais vous céder la parole brièvement quand même, très brièvement, à mes collaborateurs qui voulaient également participer et me raconter un petit peu comment ça se trouve que vous êtes rentré dans cette dynamique, comment avez-vous connu donc cette économie collaborative et comment y êtes-vous lié peut-être?
Il faut savoir que c'est un mode de fonctionnement qui se propage par le bouche à oreille, tout simplement. Et on a eu, nous, la chance, via une connaissance qui habite près de chez nous en Espagne, d'être mis en contact avec Alexandre, justement. C'est lui qui nous a présenté la chose, qui nous a montré de quelle façon ça fonctionnait. Et ça correspondait à nos valeurs, à notre envie de fonctionner. Et on a décidé tout simplement, dans un premier temps, d'être consommateur et de voir et de juger par nous-mêmes que ce qu'on nous avait dit est bien réel, que c'est effectivement quelque chose au niveau de la qualité des produits qui tient la route. Et dans un deuxième temps, on en a tout simplement parlé autour de nous. Le simple fait pour nous de partager un bon plan, de permettre à des personnes d'adhérer à quelque chose qui peut soit leur permettre de consommer différemment, ou comme l'a dit Alexandre, de tout simplement mettre un revenu en place, peut-être un revenu complémentaire, voire plus. Et on a pris ce rôle de conseiller, si on peut l'appeler comme ça. Et on est tout simplement un peu l'interface entre le consommateur et la centrale, et on leur permet d'adhérer et de consommer à travers le conseil qu'on leur donne.
Merci beaucoup. Je ne sais pas si Bénédicte souhaite ajouter quelque chose.
Oui, ce que je voulais dire, c'est qu'on n'est pas en train de créer de nouveaux besoins aux personnes. Ce qu'on leur propose, ce sont vraiment des choses qu'ils ont dans leurs armoires. Je suis sûre que vous savez trouver dans notre centrale entre 50 et 80 produits que vous achetez généralement dans la grande distribution. Il est important de savoir aussi que, bon, on est sûr de la qualité des produits et qu'ils sont tous satisfaits ou remboursés. Bon, je défie de trouver ça dans la grande distribution ou même dans un commerce normal. Et les gammes ne cessent d'augmenter. On est en recherche de qualité, de perfectionnement de produits. C'est assez impressionnant ici. Ça fait 3 ans qu'on fait partie de cette économie et on a sans cesse de nouveaux produits avec une amélioration au niveau écologique et économique incroyable.
Merci beaucoup. On va juste faire une petite pause, quelques secondes à peine, pour écouter de la belle musique en français. Le Grand Bleu, Eric Serra, ça vous dit quelque chose? On parle de la planète bleue, on souhaite qu'elle reste bleue. On a besoin vraiment de prendre en charge le climat, cette société que l'on habite, qu'elle soit meilleure pour nous et pour nos enfants.
Oui, voilà, c'est relax. On a besoin d'un petit peu de croire. J'ai besoin de croire. Enfin, voilà, nous en avons tous besoin. Alors, nous reprenons cette émission ayant pour trait donc l'économie collaborative et à nouveau avec nous, Bénédicte et Paul de Monti.
Nous avons également donc Alexandre Schneider, à qui je lance à nouveau donc. La parole, excusez-moi. Alexandre?
Oui, Pierre.
Bon, voilà, donc c'est juste pour quasiment clore notre émission. Il nous reste moins de 10 minutes, le temps passe si vite. Oui. Alors, on a parlé un petit peu de cette éco-responsabilité, de cette façon de consommer différemment. Oui. Et je voudrais également qu'on aborde également donc cette communauté de consommateurs que vous avez nommée en quelque sorte, qui est en train de se développer. Qu'est-ce que cela, quelle est l'importance de cette communauté? Parce qu'on peut penser peut-être déjà à un service de proximité, et il est vrai que de nos jours, il faut dire aussi que c'est bien dommage, mais les petits commerces commencent à manquer, ils disparaissent. Pour les personnes âgées, ça peut être quelque chose de très important. Pour des personnes handicapées également, ou ayant des soucis de ce côté-là, les personnes ne disposant pas forcément de moyens de transport, je veux dire, ça peut être un système également éco-responsable si autour de nous, on a des personnes également qui prennent en charge cette manière de partager, de consommer ensemble pour les moindres frais et un maximum de qualité.
Exactement. Ben en fait, l'idée, elle est toute là. Elle a été de se demander pourquoi nous n'avions pas des services de proximité beaucoup plus près des gens. En fait, si je peux reprendre la devise de la Belgique, la devise de la Belgique, c'est l'union fait la force. En fait, nous avons remarqué qu'effectivement, moi, dans le nord de la France, Paul et Bénédicte, dans la province d'Alicante, de manière individuelle, nous sommes beaucoup trop faibles par rapport aux grands groupes de la grande distribution et des géants comme Amazon et consorts. Par contre, Paul, Bénédicte et moi, à partir du moment où nous travaillons ensemble, nous collaborons ensemble, où nous achetons ensemble dans cette centrale, nous représentons une puissance collective. Et l'idée, simplement, de pouvoir dispatcher sur l'ensemble et l'intégralité du territoire européen. Pour l'instant, nous sommes forcément présents en France, en Belgique, en Espagne, au Luxembourg, dans tous les territoires et départements d'outre-mer. Et nous sommes déjà en train d'harmoniser nos lois fiscales et juridiques avec l'Allemagne, l'Italie et le Portugal. Et nous sommes en train de rechercher des personnes qui, comme Paul, Bénédicte, moi et d'autres en France, on est à peu près 6 500 adhérents à ce collectif pour l'instant, pourront mettre en place dans chaque rue de chaque ville et village d'Europe des points relais, un endroit où les gens vont pouvoir venir s'alimenter et s'approvisionner en circuit court en direct de fabricants. Et de pouvoir ainsi bénéficier de l'achat collectif lié à la fédération de ces points relais ensemble. D'où l'intérêt de pouvoir communiquer et de pouvoir nous associer à pouvoir utiliser cet outil commun de commerce. C'est des commerces de nouvelle génération où en fait on revient un petit peu comme dans le temps. Moi j'ai 45 ans, Pierre. Je me souviens encore dans ma rue, il y avait une petite, nous on appelait ça une COP, c'est un petit endroit où les gens pouvaient venir à pied de chez eux se dépanner en produits de première nécessité. Et bien là, effectivement, nous avons maintenant énormément de collectifs d'agriculteurs qui se fédèrent pour pouvoir nous alimenter en produits de base, en produits d'alimentation. Mais qu'en est-il de tout ce qui est hors alimentation? Eh bien, nous sommes tous hyper tributaires de la grande distribution. Et là, l'idée, elle est de pouvoir proposer une alternative de consommation éco-responsable, et voilà, avec un vrai changement sociétal de proximité pour les gens. Et l'idée, c'est que les gens puissent venir faire simplement leurs courses, presque chez leurs voisins, qui vont se charger de regrouper les commandes en passant par cette centrale d'achat, mutualisée.
Oui, alors on parlait également l'autre jour en fait, et j'ai beaucoup aimé cette idée de projet, puisque je pense qu'il pourrait s'agir d'un projet européen, et ce serait vraiment bien qu'il y ait une harmonisation des lois des pays européens de ce côté-là, pour tenir compte de cette opportunité historique peut-être de changer un petit peu cette manière de vivre que nous avons dans le monde, et qui en ce moment ne nous mène pas bien loin, puisque on a quand même un peu peur, on est en train de voir autour de nous des situations difficiles. Donc les prix qui sont en train de flamber. Et voilà. Et on disait justement donc une phrase également que j'ai retenue de cette conversation que nous avons eue. Doucement, nous sommes pressés. Doucement, nous sommes pressés. C'est-à-dire que c'est quelque chose d'important, mais on va le faire sérieusement. C'est-à-dire que même si on est pressé, on va le faire comme il faut.
Et c'est pour ça que nous avons besoin de trouver des personnes vraiment qui ont cette envie d'apporter leur pierre à l'édifice et de contribuer à cette cohésion européenne. Et je me permets, mais je vais quand même le dire, je ne pense pas qu'à l'heure actuelle, les gouvernements européens sont à même de s'entendre sur quelque chose. Là, ce que nous proposons avec Paul et Bénédicte à l'heure actuelle, c'est simplement de fédérer des personnes qui, eux, vont prendre cette responsabilité en mettant à leur disposition, sans investissement, un outil déjà fonctionnel. Et nous allons, en collaborant, en nous entraidant, réussir à créer un mouvement moi j'appelle ça un raz-de-marée silencieux. Un raz-de-marée, il y a quelque chose qui vient du peuple et qui va pouvoir, par cet effet de masse, devenir une évidence pour les gens. Nous sommes déjà passés sur une émission de grande chaîne télé en France, la première chaîne télé française d'ailleurs, à une heure de très grande écoute qui expliquait justement...
On parle de TF1, n'est-ce pas ? Parce que j'ai regardé cette émission, 12 minutes voilà. En prime time, rien que ça. Waouh ! Félicitations.
Je pense que ça fait surtout partie d'une mutation. On parlait au tout début de l'émission de ces grandes crises qui ont bouleversé les gens, et on s'aperçoit que les gens veulent revenir à des choses naturelles, à des choses saines, à des choses sensées. Et là, il n'y a rien de plus sensé que de se fédérer et d'acheter en collectivité, en court-circuitant les géants de la grande distribution et en répartissant les marges d'une façon différente. Nos consommateurs vont avoir des produits 20% minimum moins chers que dans le commerce à gain équivalente. Et on peut le faire simplement parce que nous avons décidé de court-circuiter tout ce qui ne nous sert pas.
Merci beaucoup Alexandre Schneider. Moi, j'ajouterais simplement une autre devise, c'est la devise de la Suisse, un pays qui m'est également très cher, un pour tous, tous pour un, unus pro omnibus, omnes pro uno. D'accord, puisque effectivement, donc, c'est cette manière d'agir ensemble. Et voilà, je ne sais pas si mes collaborateurs, Bénédicte et Paul, souhaitent ajouter quelque chose.
Non, simplement le fait que si des personnes souhaitent avoir des informations, je pense qu'elles peuvent peut-être via l'émission, via peut-être votre canal.
Nous avons également donc soit l'émission radio-umh.es, mais autrement simplement sur Facebook, vous avez également en version originale français, hein, vous allez retrouver. On doit la mettre en marche à nouveau parce que j'avoue que ces dernières années, on a été un peu pris, mais on souhaite la relancer, donc cette page Facebook. Et en tout cas, on est là, hein. On va être là, on va rester à l'écoute à travers l'université Miguel Hernandez d'Elche. Et je ne sais pas si Paul et Bénédicte souhaitent ajouter autre chose. Et autrement, on va...
Non, c'était, on veut simplement remercier de nous permettre de faire connaître cette chose qu'on a trouvée, nous, magnifique. Voilà, donc... Merci en tout cas de nous avoir écoutés et puis peut-être plus loin, peut-être que vous serez motivés de nous accompagner dans cette nouvelle aventure.
On est totalement disposés à informer les personnes qui le souhaitent et à leur permettre d'avoir le maximum d'éléments pour voir si eux aussi c'est quelque chose qui peut les intéresser.
Alors c'est Bénédicte et Paul de Monti. Et Alexandre Schneider, pardon, à vous de clore l'émission. Et encore un grand merci vraiment d'avoir accepté notre invitation.
Merci.
Merci à vous, Pierre.
À la prochaine, on reste en contact. Merci beaucoup.
Merci.
Ciao.
Merci.
Au revoir.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.